convient de définir ce qu'est le droit dur et le droit souple. Les règles obligatoires sont des règles de droit dur, c'est-à-dire qu'elles affectent l'ordonnancement juridique. Elles ont un contenu normateur. Le droit dur est finalement l'archétype de la règle de droit telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire une règle contraignante. Le droit souple, quant à lui, concerne des règles non prescriptives, en ce sens qu'elles ne sont pas contraignantes. Il s'agit alors de recommandations, d'avis, de prises de position, de mise en garde. Ces actes ne sont pas obligatoires, ils ne modifient pas l'ordonnancement juridique. Entre les actes de droit dur et les actes de droit souple, il existe un ensemble de règles qui s'insèrent dans une échelle de normativité graduée, en ce sens qu'elles imposent un simple rapport de compatibilité plutôt que de conformité. Une fois cette définition posée, il convient maintenant de s'intéresser au PLU et aux documents qui gravitent autour. En effet, le PLU est soumis au principe de hiérarchie des normes. Il ne peut donc être envisagé seul, mais doit être pensé avec les documents qui l'entourent. Pour rappel, et conformément à l'article L151-2 du Code de l'urbanisme, un PLU comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable, dit PADD, des orientations d'aménagement et de programmation, OAP, un règlement et des annexes. Le règlement relève typiquement du droit dur, il impose à toute personne les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol. Créés en 2003, les OAP constituent une composante du PLU depuis la loi Grenelle 2 et visent à donner au PLU une dimension programmatique et opérationnelle. Elles peuvent être précises sans pour autant être prescriptives. À ce titre, le juge contrôle que les dispositions en question restent des orientations dépourvues de caractère prescriptif sous peine d'illégalité. Les OAP s'imposent aux travaux et opérations d'urbanisme dans un rapport de compatibilité, à condition qu'elles soient suffisamment consistantes pour être opposables, c'est-à-dire qu'elles orientent et programment véritablement l'urbanisation et l'aménagement des zones concernées. À défaut, elles ne sont pas opposables et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours. Il est à noter également que les OAP et le règlement du PLU doivent s'exprimer en cohérence avec le PADD. Le rapport de cohérence est plus exigeant que le rapport de compatibilité. La cohérence est appréciée de manière globale par le juge administratif qui recherche qu'il n'y a pas de contradiction entre les différentes dispositions. Si les fiches d'identification du patrimoine, comme les cahiers de prescription ou de recommandation, sont annexées au règlement du PLU et qu'un renvoi précis est fait dans le règlement invitant à se reporter à ces outils, ils sont alors opposables. Cependant, ces documents ne peuvent être qu'annexés au PLU à titre de conseil et ne sont alors pas opposables. Il en sera de même si ces fiches et cahiers ne sont pas annexés au PLU et qu'ils constituent un document spécifique. Ils ont alors seulement un rôle de conseil et d'information. Il convient dans un premier temps d'aborder le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui ne peut énoncer que des orientations générales et des objectifs. C'est l'exemple type du document situé entre le droit dur et le droit souple, puisque le SCOT n'entraîne qu'une obligation de compatibilité et non de conformité. Le PLU doit donc seulement être compatible avec le SCOT, qui ne contient que des règles peu prescriptives. Cependant, l'ensemble du SCOT n'est pas dans un seul rapport de compatibilité, puisque l'un des documents du SCOT, le document d'orientation et d'objectifs, dit DOO, peut énoncer des prescriptions. Il impose notamment des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace. Ensuite, il existe un certain nombre d'outils très utilisés dans la protection du patrimoine et qui sont plus ou moins contraignants. De nombreuses collectivités développent leurs relations avec les acteurs de la protection du patrimoine et de l'urbanisme, citoyens, constructeurs, restaurateurs, promoteurs, par le biais de chartes ou de conventions, comme la charte de la construction durable à Bordeaux ou encore la charte de la qualité urbaine à Tours. Ces chartes reprennent très souvent des éléments de documents d'urbanisme. Elles ne peuvent pas, en revanche, ajouter des contraintes supplémentaires qui seraient dès lors illégales. Il est donc important de garder à l'esprit que ces chartes sont des actes de droit souple qui visent à favoriser la communication entre les différents acteurs de l'aménagement du territoire.